Bonjour les auditrices.
Bonjour les auditeurs.
Bienvenue sur le 93.7 de Radio Valois-Mulsien.
Nous sommes les CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Nous espérons que vous allez bien.
C'est l'heure de notre émission.
Nous avons réalisé par groupe de 6 plusieurs interviews au collège d'Aramon de Verberie.
Margot, Adem, Némon, Emeric, Léna et Capucine ont interviewé le lundi 12 février Madame Arnaldi, professeure de français et professeure principale d'une classe de 6e.
RVM, les stars de la radio, 93.7.
Bonjour Madame Arnaldi.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans le collège d'Armand.
Nous sommes 6 élèves de la classe des CMA de l'école des remparts de Verberie.
Nous nous appelons
Adem, Margot,
Démon,
Laina,
Emeric,
Capucine.
Nous avons préparé une interview sur votre métier et sur le fonctionnement du collège.
Êtes-vous prête à répondre à toutes nos questions ?
Je suis prête à répondre à toutes vos questions.
Première question, vous êtes professeur principal des 6e A. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, quand on est professeur principal de 6e ou de n'importe quelle autre classe, en fait, ça veut dire qu'on est le professeur référent. Donc, on est le professeur référent et on va s'occuper au niveau de la classe de tout ce qui concerne leur vie scolaire et leur bien-être dans le collège. Donc, on les accueille le premier jour, on reste avec eux toute la première journée. Et puis ensuite, on travaille avec eux sur l'esprit de classe. On voit si certains d'entre eux ont des difficultés. On essaye de voir leur évolution au fur et à mesure de l'année. Le professeur principal, il s'occupe aussi de lire les bulletins de travail à chaque trimestre. Et c'est lui qui propose une appréciation et qui propose éventuellement également des récompenses ou bien des mises en garde sur le travail ou le comportement. Et puis, il fait la synthèse avec ses élèves ensuite. Lorsqu'il y a des projets aussi de classe, le professeur principal peut gérer un projet avec ses élèves. Par exemple, ça peut être comme vous, voilà, un travail sur une radio, ça peut être une affiche de lutte contre le harcèlement, ça peut être une sortie, un petit voyage, voilà. Donc il gère en fait tout ce qui concerne ses élèves et il transmet après aux professeurs des autres classes.
Quelles sont les études à faire pour devenir professeur de français ?
Alors il faut d'abord se rendre au lycée, obtenir un bac. Après, lorsqu'on a le bac, il faut aller en université et donc on va préparer d'abord 3 ans de ce que l'on appelle une licence, donc une licence de lettres. Et ensuite, il faut 2 ans pour travailler dans ce que l'on appelle maintenant un master, donc ou un master de lettres ou un master de sciences de l'éducation. Et une fois qu'on a les 5 ans d'études, on passe un concours pour être professeur de lettres ou le concours de ce que l'on appelle le CAPES, ou un concours de niveau plus élevé, l'agrégation. Et ensuite, voilà, on peut enseigner en tant que professeur de lettres dans le collège ou dans le lycée.
RVM, les stars de la radio 93.7.
Pourquoi avez-vous choisi le français ?
Alors, pourquoi j'ai choisi le français ? Parce que très jeune, très petite, j'aimais beaucoup la langue et j'aimais beaucoup lire. Je lisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et je n'ai jamais arrêté de lire en fait. Et j'aimais beaucoup les beaux textes et j'aimais bien aussi la grammaire. Et ensuite, je me suis intéressée aussi au latin et au grec que j'ai étudié en collège et en lycée. Et donc après, j'ai hésité entre différentes options et puis finalement, par amour des lettres en fait, par amour des beaux textes, j'ai décidé d'être professeur de français. Mais aussi par amour de la grammaire, j'aime beaucoup la grammaire.
Peux-tu me trouver les groupes nominaux dans ces phrases ?
Moi j'ai trouvé ces oiseaux, chats et branches.
Là, tu m'as donné les noms, mais pas les groupes nominaux.
Mais c'est quoi cette histoire de groupe ? C'est un groupe de copains ?
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, en fait, c'est vraiment le contact avec les enfants. Voilà, je trouve très intéressant d'être au contact des enfants, des adolescents. On apprend, alors on leur enseigne une matière, mais on apprend aussi beaucoup des enfants et des adolescents. Quand on travaille et qu'on est professeur, en fait, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est un échange avec les élèves. Voilà. Et donc, contact avec les élèves, leur apprendre, leur montrer ce qui me passionne et voir leurs réactions, les faire travailler, les faire évoluer, c'est ce que je trouve le plus agréable. Voilà.
Est-ce que votre métier est fatigant? Si oui, pourquoi?
Alors oui, c'est un métier fatigant en fait. Alors pourquoi il est fatigant? Parce que on travaille. Alors quand on est professeur, on travaille pas toute la journée comme les professeurs des écoles. Au collège, en fait, on a un emploi du temps hein, qui nous permet quelquefois d'avoir des temps de libre. Mais ces temps libres, en fait, on les utilise pour travailler. En fait, c'est un métier fatigant parce que toutes les heures, on change de classe et donc il faut à chaque fois mettre les élèves en condition de travail. En condition d'être bien concentrés, de sortir leurs affaires, de vous accompagner bien dans la séance que vous avez préparée. Et donc, ça demande toujours de gérer la classe de façon à ce que le travail se passe bien. C'est une certaine tension nerveuse, en fait. Et donc, on prend l'habitude de cette tension nerveuse, mais les fins de journée peuvent être difficiles, d'autant que la plupart du temps, quand on rentre à la maison, nous n'avons pas terminé. Il y a une deuxième journée qui nous attend, qui est un temps de préparation et de correction. Et quelquefois, les journées peuvent s'arrêter vers 23 heures, par exemple. Voilà. Et moi, je ne suis plus toute jeune, ça fait très longtemps que j'enseigne, et donc j'ai aussi la fatigue qui est liée à l'âge. Donc gérer des classes, plus tout le travail qui est à côté, voilà, demande une énergie qu'on a un petit peu moins quand on a un peu d'âge. Donc on travaille plus lentement, c'est plus pesant, mais ça reste quand même plaisant. Mais c'est vrai que c'est un métier fatigant.
Depuis combien de temps travaillez-vous au Collège d'Aramon?
Alors, je ne suis pas depuis longtemps au Collège d'Aramon. En fait, c'est ma troisième année. J'ai souhaité venir au Collège d'Aramon parce que, comme je l'expliquais, je ne suis plus toute jeune. Et auparavant, j'étais dans un collège à côté de Creil, un collège d'Aramon, de Coffry. Et donc avec des trajets de voiture, et j'étais fatiguée avec les trajets de voiture. Et donc j'ai vu que le poste ici se libérait, et j'ai demandé à venir travailler à Verberie. Donc c'est ma troisième année, voilà.
Avez-vous travaillé avant dans d'autres établissements comme dans un lycée?
Alors oui, j'ai travaillé dans différents établissements, pas beaucoup. Parce qu'en fait, je me plaisais beaucoup dans les établissements dans lesquels j'étais, donc je n'avais pas trop de raisons de partir. Donc j'ai commencé à Étré Saint-Denis. Voilà, j'ai commencé vraiment en Picardie, dans l'Oise. J'ai commencé à Étré Saint-Denis. Ensuite, je suis allée un tout petit peu au collège de Chantilly. Après, je suis restée très longtemps à Senlis, vraiment très longtemps à Senlis. Et j'ai eu l'envie, à un moment donné, d'aller enseigner en lycée. Voilà, pour voir comment se passait l'enseignement en lycée. J'y suis restée 4 ans. Et puis, j'ai souhaité revenir en collège, donc à Coffry, et puis maintenant Verberie, parce que je trouve qu'au collège, on est beaucoup plus libre, c'est plus créatif pour les professeurs de français. Au lycée, en fait, on est un peu asservi par la préparation des examens, par le bac, par le BTS, et j'avais envie de retrouver la créativité, la fantaisie que l'on peut avoir aussi dans l'enseignement du français, du latin et du grec au collège.
Lorica quam hic videmus, vero ad modum specios est. Neque in immaculate veri similem, norica segmentata repra essentat.
Pouvez-vous décrire le collège d'Aramon?
Alors, le collège d'Aramon, c'est un collège dans lequel il est très agréable de travailler, je pense autant pour les élèves que pour les enseignants. D'abord parce que c'est un effectif qui est raisonnable. Il y a des collèges qui ont 700-800 élèves et c'est tout de suite plus fatigant, plus bruyant. Mais là, en fait, c'est un peu plus de 500 élèves, c'est bien pour une communauté éducative au niveau du collège, voilà. Les gens travaillent ensemble, les professeurs travaillent ensemble, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et on travaille aussi bien avec notre direction et avec toute l'équipe éducative. Et il y a moyen au collège d'Aramon, en fait, de travailler en toute sécurité, dans de bonnes conditions. Et puis, il y a aussi pas mal de projets qui sont tous les ans proposés pour diversifier l'enseignement et proposer des choses attractives aux élèves.
Quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture du collège ?
Alors, nous pouvons rentrer à l'intérieur du collège dès 8h, mais par contre, les cours commencent à 8h30. Et ensuite, les cours s'arrêtent à 5h10, 17h10, mais le collège reste ouvert jusqu'à 18h. Voilà, donc du coup, on peut rentrer entre 8h du matin et puis on peut rester dans le collège jusqu'à 18h.
Pause musicale, on va écouter les Kids United avec Clotilde.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
D'où nous l'a écrit, qu'un temps la nuit tout s'efface.
Actuellement, l'interview de Madame Arnaldi, professeure de français et professeure principale d'une classe de 6e au collège d'Aram.
Comment se passe une journée pour vous au collège ?
Alors, je viens généralement un petit peu en avance parce que j'aime bien préparer ma salle avant d'accueillir mes élèves. Et puis, on peut avoir quelquefois des photocopies à faire pour un document qu'on n'aurait pas fait la veille, par exemple. Ensuite, une fois que j'ai préparé ma salle, je descends dans la salle des professeurs pour dire bonjour à mes collègues. Et à la sonnerie, on se dirige vers la cour dans laquelle nous attendent nos élèves. Ils sont rangés par classe, en fait, voilà, et par niveau. Et donc, on va chercher nos élèves et on les accompagne pour monter dans les salles. Les élèves ne peuvent pas se déplacer seuls. Et ensuite, je reste dans ma salle avec les élèves pendant 2 heures. Ensuite, il y a un petit temps de récréation où les élèves et nous-mêmes, nous descendons. Ensuite, je reprends mes élèves à la fin de la récréation. Je remonte avec eux travailler. Si j'ai par exemple 4 heures, je reste avec eux jusqu'à midi. Ensuite, on a une pause méridienne. Ce qu'on appelle la pause méridienne, c'est le temps du déjeuner. Elle peut commencer à 11h30 et puis vous reprenez les cours à 13h. Ou bien alors, elle peut commencer à 12h30 et en ce cas, on reprend les cours à 14h. Donc nous, professeurs, on a le même type de pause, en fait. On a 1h30 en principe, voilà, dans lesquels on peut rentrer à la maison manger si on a le temps, sinon nous déjeunons comme les élèves à la cantine. Et ensuite on reprend l'après-midi ou pas. C'est-à-dire que ma journée, elle peut être courte. Je peux par exemple n'avoir autant sur le temps du collège que le matin et donc je rentre après chez moi travailler. Ou bien alors je peux être présente toute la journée jusqu'à la fin. Alors, je ne suis pas obligée de travailler 7 heures. Je peux, par exemple, travailler 2 heures le matin et puis je reste dans ma salle pour faire mon travail et je retravaille ensuite 3 heures l'après-midi. Tout dépend de mon emploi du temps, en fait.
RVM, les stars de la radio, 93.7.
Comment faites-vous pour tenir autant d'élèves ?
Alors, en fait, c'est une question d'expérience. Au tout démarrage, voilà, si on n'a pas eu de gestion d'enfants, on apprend, on dira, en situation. C'est-à-dire qu'on nous donne quelques petits codes, voilà, des choses à faire. Dans un premier temps, on demande aux élèves, par exemple, de se ranger par ordre alphabétique, tant qu'on ne les connaît pas. Ça nous permet, en fait, de les désigner tout de suite par leur prénom et puis de faire une réflexion tout de suite en ciblant l'élève si l'élève ne se tient pas bien. Et donc, tout de suite, on est réactif. Si on voit un élève qui va avoir tendance à bavarder ou bien pas se tenir bien sur sa chaise, voilà, on va tout de suite s'adresser à lui et puis lui indiquer les règles, voilà, et proposer les règles. Ensuite, je pense qu'on a l'expérience aussi petit à petit qui fait que l'on apprend à appréhender tous nos élèves en même temps. C'est-à-dire qu'on est attentif à avoir devant nous tous les élèves et on les sent, en fait. C'est comme ça un peu que ça se passe. On sent le groupe. Et on intervient à un moment donné quand on sent que le groupe n'est plus avec nous. Moi, j'ai été aussi animatrice dans des colonies de vacances avant d'être enseignante. Donc, j'ai aussi appris en tant qu'éducatrice, en fait, avant, à gérer des groupes d'élèves, alors plus petits, mais des groupes d'enfants, pardon. Et on apprend petit à petit à se poser et à avoir une autorité, ce qu'on appelle une autorité naturelle. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec l'âge, on apprend aussi à savoir bien enseigner aux enfants. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Et donc, à la fois, quand on arrive à bien comprendre notre groupe et quand on a suffisamment d'expérience pour avoir cette pédagogie, eh bien, l'autorité, elle se fait toute seule, si vous voulez. Et donc, le problème de tenir sa classe ne se pose plus parce qu'on a appris à fonctionner avec la classe et à faire que les élèves respectent les règles qu'on leur donne. Voilà. C'est comme ça que ça se fait petit à petit.
Un bon prof, c'est un prof qui anime la classe, anime son cours.
Un bon prof, pour moi, ça nécessite de bien expliquer son cours.
Qui parle avec tout le monde, qui circule dans la classe, qui donne la joie de vivre, qui nous donne envie.
Quelles sont les sanctions, les punitions que les professeurs donnent aux élèves ?
On a, vous verrez quand vous serez au collège, on a un petit carnet qui s'appelle le carnet de correspondance. Et donc, en fait, les punitions et les sanctions, elles ont été décidées de façon collective. Et donc, on apprend à suivre un certain ordre. Donc, si, par exemple, on va supposer que vous êtes un peu bavard, on va vous rappeler à l'ordre oralement. Il n'y aura pas forcément de punition tout de suite, mais on dit « attention, là, tu as tendance au bavardage ». Donc, je vais mettre, par exemple, dans mon petit carnet, je vais mettre un trait ou une croix. Par exemple, pour un élève qui va s'appeler Maxime, on va mettre une croix. Et on lui dit « attention, voilà, si je te fais un rappel à l'ordre 3 fois, ça sera cette fois-ci un rappel à l'ordre écrit ». Donc, c'est dans le carnet ou sur la gestion qui s'appelle « Pronote ». Et donc, voilà, on fait ça. Au bout de 3 fois, l'élève n'a toujours pas compris et continue à bavarder. On dit, bon, bah écoute, là, tu as été prévenu, tu as un rappel à l'ordre. On marque un rappel à l'ordre par informatique dans le carnet de l'élève. Et c'est vu par les parents et par l'équipe de vie scolaire. Après, s'il n'y a plus de rappel à l'ordre, par exemple, au bavardage, il y a eu un rappel à l'ordre. Si l'élève n'a toujours pas compris, on va comment faire une punition écrite. Alors, ça peut être 3 exercices supplémentaires, par exemple, en orthographe. Ou bien alors, ça peut être copier un passage du règlement intérieur. Et puis, s'il n'y a décidément pas d'évolution, eh bien, on peut coller l'élève, 1 heure par exemple. Et pendant cette heure-là, on va lui donner aussi du travail supplémentaire. Si la perturbation, elle continue à être importante, on va appeler les parents. Ou alors, on va mettre une fiche de suivi. Donc oui, on peut faire des punitions, voilà, qui vont être des commentaires, donc des rappels à l'ordre, des petites observations sur le carnet, donc des colles, et puis éventuellement une convocation auprès des différentes personnes de la vie éducative. Mais en fait, il y a des petits degrés, c'est comme un escalier. Et on essaye tous de respecter la même progression pour que les élèves aient l'habitude, en fait, de ces sanctions, et puis se rendent compte qu'elles sont bien nécessaires pour travailler correctement.
Un élève peut-il être renvoyé du collège ?
Alors oui, un élève peut être renvoyé du collège lorsqu'il ne respecte pas le règlement intérieur du collège. Alors ça se fait à partir de rapports qui ont été établis par les enseignants. Un rapport, en fait, c'est un écrit que l'on fait pour indiquer un incident grave. Quand même, pour être renvoyé du collège, il faut que ce soit des incidents qui sont considérés comme graves. Donc ça peut être de la violence, ça peut être l'intrusion d'objets qui sont interdits dans le collège ou l'utilisation de ces objets. Ça peut être un manque de respect important, hein, vis-à-vis des adultes, vis-à-vis des enseignants, ou des gestes qui sont vraiment dangereux. Et dans ce cas-là, l'élève est renvoyé du collège, pas comme ça. Il faut passer par ce que l'on appelle un conseil de discipline. Et dans un conseil de discipline, il y a différentes personnes qui sont présentes. Les parents de l'enfant sont présents. Notre direction est présente, l'équipe éducative, le professeur principal, des parents représentants du conseil d'administration. Et ensemble, en fait, on va lire toutes les observations qui ont été faites au sujet de cet élève. Et on va décider après, on va prendre une décision, ou bien de l'exclure avec sursis. Exclure avec sursis, ça veut dire qu'il peut encore rester là, mais à la moindre bêtise, il sera exclu définitivement. Ou alors on peut considérer que les faits sont suffisamment graves pour qu'il soit exclu définitivement, parce qu'il va être dangereux pour lui et pour les autres. Donc on lui dit qu'il ne peut plus rester dans l'établissement, de manière à ce qu'il y ait une limite qui soit posée. Et dans ce cas-là, ses parents doivent chercher à le scolariser dans un autre établissement.
RVM, les stars de la radio 93.7.
Quel est votre emploi du temps ?
Alors, de mémoire, le lundi, je vais travailler les deux premières heures du matin. Et puis ensuite, je vais être disponible jusqu'à 13h tous les 15 jours. Et sinon, je reprends les cours. Aujourd'hui, par exemple, je reprends les cours à 14h jusqu'à 16h. Pour moi, c'est une petite journée. C'est une journée de 4h et dans laquelle j'ai le temps, vous le voyez, d'être disponible pour des activités, pour des élèves ou pour faire mes copies. Le mardi, c'est une journée où j'ai toute la matinée de libre. Et je commence par l'atelier théâtre, en fait, l'après-midi. Et je travaille que l'après-midi. Le mercredi matin, j'ai également 2h le matin seulement. Donc je peux rentrer rapidement chez moi, donc j'apprécie, j'ai presque une petite journée. Le jeudi, je vais avoir 5h, donc je commence à 8h30, j'ai des pauses dans la journée, je termine à 16h. Et le vendredi, j'ai 6h, donc je vais commencer à 8h30, j'ai une pause méridienne et je termine à 5h10. C'est le vendredi qui est la journée la plus chargée pour moi.
Combien y a-t-il d'élèves par classe environ ?
Alors, on a, en principe, la moyenne, c'est 23-24 élèves. On est content quand on a 23-24 élèves, parce que ça n'est pas souvent. Et donc, ça aussi, ensuite, jusqu'à 28, voire 29 élèves. Et nous avons eu quelquefois jusqu'à 30 élèves par classe, ce qui nous paraît beaucoup. Mais on ne peut pas toujours avoir des effectifs allégés. Ça dépend du nombre d'élèves que l'on a et de la possibilité que l'on a de diviser, en fait, ces élèves, de les répartir dans des classes. C'est quelque chose qui est un petit peu obligatoire. Et donc, on n'a pas toujours le choix de faire des effectifs légers dans chacune de nos classes parce qu'on ne nous donne pas les moyens de cela forcément. Voilà.
Pause musicale. Nous allons écouter Soprano, Histoire sans fin.
Je sais très bien que personne n'est parfait, que l'on fait de son mieux, qu'on partira tous avec des regrets, des remords dans les yeux. Ce pardon que vous m'avez donné est un cadeau précieux. Pourtant je m'étais juré de ne plus jamais céder ma place à mes démons. Je m'étais repenti, mais je vous ai menti à mes dépens. Car l'histoire se répète encore une fois. Suis-je condamné à refaire ces mauvais choix? Pourrais-je me pardonner, recommencer, faire comme si rien ne s'était passé, effacer le mal fait autour de moi? Je sais que le poids de mes fautes vous a pesé, que mes actes et mes choix ont pu parfois vous briser. Combien de fois vos déceptions m'ont-elles hanté? pourtant je m'étais juré de ne plus jamais céder ma place à mes démons. Je m'étais repenti, mais je vous ai menti à mes dépens. Car l'histoire se répète encore une fois. Suis-je condamné à refaire ces mauvais choix? Pourrais-je me pardonner, recommencer, faire comme si rien ne s'était passé? Effacer le mal fait autour de moi. Je vous ai vu plonger sans hésiter dans des marécages pour me sauver de moi, braver les dangers sans jamais me pointer du doigt. Je vous ai vu sacrifier votre dignité pour me relever puis me pardonner. Je méritais.
Actuellement, l'interview de Madame Arnaldi, professeure de français et professeure principale d'une classe de 6e au collège d'Aramon.
Est-ce que vos élèves sont bons en français ?
Alors en fait, c'est variable d'une classe à l'autre. Et puis à l'intérieur d'une même classe, on a des élèves qui vont être très bons en français, qui sont à l'aise depuis l'école primaire. Et ensuite, on va avoir des élèves qui ont besoin de consolider les notions, bon, voilà, parce qu'ils ont besoin de plus de temps que les autres, en fait, pour refaire des exercices, retravailler, être aidés dans ce domaine-là, avoir du soutien. Et donc, dans toutes les classes, eh bien, en fait, on a l'habitude d'avoir des niveaux différents et donc d'avoir des élèves en difficulté, des élèves moyens et des élèves très bons. Qui peuvent ensuite approfondir et consolider les notions. On a pris l'habitude aussi que le français soit devenu un peu un problème. C'est une évolution de société, je pense, en fait. Et donc, la maîtrise du français écrit est plus compliquée qu'avant, parce que, de manière générale, les élèves pratiquent moins l'écrit. Vous êtes plus dans une génération d'oral, ce qui est une bonne chose aussi, parce que ça vous apprend des compétences. Vous apprenez beaucoup de petites vidéos, par exemple. Moi, j'ai des élèves, quelquefois, qui me parlent de notions qu'ils ont travaillées en français à partir de petites vidéos, et c'est tout à fait bien fait. Donc, les notions sont bien sues, ils peuvent les restituer. Mais donc, il y a moins de lecture de petits romans, de textes, et donc, on a besoin d'insister plus, souvent, sur la qualité de la langue. Voilà. Mais il faut évoluer avec son temps et donc on essaye de faire avec et de donner quand même un bon niveau d'écrit aux enfants.
Qu'en pensez-vous de cette magnifique salade de fruits, monsieur ? Ah, monsieur, cette salade de fruits est délicieusement fraîche.
Vous aimez vos élèves ?
Eh bien, en fait, oui. Je pense que je peux répondre à cette question, oui. J'aime beaucoup les enfants de façon générale et j'aime beaucoup mes élèves, oui.
Est-ce que l'on conjugue toujours les verbes au collège ?
Oui, je ne sais pas si vous aimez la conjugaison, mais il faut continuer à conjuguer la conjugaison pour bien les connaître. Donc oui, on continue à faire de la conjugaison jusqu'en troisième, et puis parfois même c'est repris dans les notions en seconde, parce que c'est essentiel, et puis parce que les programmes sont faits aussi de telle façon que voilà, on n'a pas toujours suffisamment de temps en classe pour vous faire conjuguer beaucoup. Et donc pour les élèves qui ne font pas forcément la conjugaison à la maison, eh bien on essaye tout le temps de retravailler la conjugaison. C'est difficile à évaluer et puis elle est longue à être mise en place dans vos petites têtes, à vrai dire.
Nous marcher dans la forêt. Non, attends. Nous marchons dans la forêt. Attends, je crois pas que ce soit ça. J'essaie d'écrire une phrase au présent, mais c'est difficile, je suis perdu.
Est-ce que l'on va revenir au collège sur la leçon des COD et les COI?
Oui, on revient au collège sur la notion des COD, COI, et pas que, en fait, hein, puisque en classe de 6e, vous consolidez ce que vous avez travaillé précédemment à l'école primaire. Et donc, on reprend les notions que vous avez travaillées à l'école primaire, on consolide, voilà, parce que c'est aussi une base, cette analyse de la phrase, le sujet, le COD, le COI, les circonstanciels. Le repérage du fonctionnement de la phrase, en fait, continue à être des bases qu'il faut retravailler tous les ans. Voilà, donc vous verrez ces notions-là jusqu'en troisième et donc, comme je le disais tout à l'heure, également en seconde.
Ah, eh bien on a acheté un vélo. Je vais pouvoir rouler partout, yeah!
Dans ce cas, un vélo est un complément d'objet direct, car il vient directement après le verbe.
Est-ce que dans votre classe, il y a un TBI?
Non. En fait, il n'y a que dans quelques classes qu'il y a un TBI parce que c'est un investissement qui est cher, qui est coûteux. Donc on ne peut pas mettre dans toutes les classes ce type de tableau et on le regrette un peu. Mais on fonctionne avec un tableau blanc classique en fait. Voilà. Et sinon, ce que nous faisons beaucoup, c'est que nous projetons les cours ou les textes voilà, au tableau. Et ça permet donc de travailler aussi avec du numérique d'une autre façon. Voilà.
Pouvez-vous nous parler de la cantine? Où est-elle?
Alors, vous êtes entré par le hall. Alors, quand on entre dans le hall, eh bien, quand vous mangerez à la cantine, vous verrez, en rentrant dans le hall, vous trouverez en face de vous, pratiquement, un petit escalier qui fait descendre vers certaines classes, les classes du pôle artistique, donc le dessin, la musique, l'allemand également, et puis quelques salles de mathématiques. Et en fait, pour aller à la cantine, en face de ces salles, donc on descend l'escalier et ça sera sur votre droite. Et on rentre déjà en fait par le self-service où on va choisir ses plats, prendre son assiette, ses couverts. Mais tout ça, c'est guidé. Quand on arrive en sixième, on est guidé en fait hein, par le professeur principal et puis par d'autres élèves. Et puis ensuite, vous allez vous asseoir dans une grande salle qui est très agréable parce qu'elle n'est pas trop sonore en fait. Voilà, donc on peut y manger dans le calme. Et puis c'est une jolie salle, voilà, bien décorée, dans laquelle on mange de façon agréable. Donc elle n'est pas du tout difficile à trouver.
A-t-on le droit d'avoir et d'utiliser son portable au collège ?
Alors vous avez le droit d'avoir votre portable au collège parce que vous pouvez en avoir besoin tout de suite à la sortie pour appeler vos parents ou prévenir. Par contre, dès l'instant où vous franchissez le portail du collège, il doit être éteint. Donc le mieux, c'est de l'avoir éteint dans le bus. On ne doit pas entendre la sonnerie de votre téléphone et vous ne pouvez pas l'utiliser à l'intérieur du collège. C'est indiqué dans le règlement intérieur. C'est strictement interdit. Parfois, il arrive qu'on vous autorise, mais il faut demander l'autorisation au professeur. On va supposer, par exemple, qu'on n'a pas accès au CDI et qu'on n'a pas accès non plus à la salle informatique. On peut demander, puis on a besoin d'un petit renseignement que l'on n'a pas forcément là. Et alors, quelquefois, on vous autorise voilà, à prendre le portable. Alors, généralement, c'est quand on est en groupe. Il n'y a qu'un seul élève qui peut le faire. Il nous montre qu'il est bien sur le site de recherche sur lequel on travaille. On cherche la réponse qui nous a posé problème et tout de suite après on l'éteint et on remet dans le sac, mais c'est très rare. Parfois aussi, vous avez des professeurs qui vont travailler avec des exercices qui sont en ligne et on va vous noter avec un petit QR code. Et donc dans ce cas-là, le professeur demande à ce que vous sortiez le portable. Sur son autorisation, vous sortez le portable et puis vous allez travailler avec l'application sur laquelle il vous a donc connecté. Mais c'est assez rare en fait. De façon générale, le portable doit vraiment être laissé en toute sécurité ou dans la poche du manteau ou bien dans le sac. Il faut juste faire attention si vous le laissez dans le sac. Quand vous allez déposer votre sac à midi dans la salle des sacs pour aller manger à la cantine, parfois les sacs sont bousculés et il est arrivé que les élèves trouvent leur portable endommagé parce que voilà, on va donner un coup de pied dans le sac, on va pas faire attention et c'est problématique. Donc si on amène un portable à l'école, il faut vraiment le mettre dans une poche où on est sûr de pas être dérangé. Alors par exemple, avoir une toute petite pochette sur soi ou avoir une poche fermée sur son vêtement, en fait, hein, sur le manteau ou la veste, pour que votre portable reste en sécurité. Nous avons constaté que les élèves en collège ont souvent des portables très coûteux, voilà, qui coûtent cher. Et donc, il faut vraiment être attentif à ce problème-là. Voilà. Mais non, on ne l'utilise pas. Et le mieux, c'est quand même, si on peut, toujours de le laisser à la maison. Si on peut.
Est-ce que l'on fait des sorties au collège ?
Alors oui, on essaye en fait d'emmener tous les niveaux de classe en sortie. Alors ces sorties, ça peut être juste une après-midi, par exemple, dans un musée ou sur une exposition. Alors sur Verberie, sur Compiègne, sur Beauvais, sur Amiens, sur Paris. Dans ce cas-là, on prend le bus. Voilà, on a les budgets généralement pour pouvoir vous emmener sur ces lieux de visite. On peut également sortir voir un spectacle. Donc ça peut être un spectacle au cinéma ou ça peut être un spectacle de théâtre. Et puis il y a des voyages qui sont organisés sur plusieurs jours. Donc les voyages organisés sur plusieurs jours, ça peut être à l'étranger, donc sont proposés, pas tous les ans, mais peuvent être proposés des voyages en Angleterre, des voyages en Espagne. Moi je suis professeure de lettres classiques, donc j'emmène mes élèves tous les deux ans en Italie, voilà, sur des sites archéologiques par exemple. On peut aussi vous emmener peut-être en Belgique, pour aller à Bruges par exemple, quand on est en classe de 5e. Voilà, et puis des échanges en Allemagne et en Angleterre par rapport à la langue et en Espagne. Alors, ce qui est devenu compliqué maintenant, c'est le coût de ces voyages. On fait moins de voyages qu'auparavant parce que les coûts, notamment de l'essence, hein, vous savez bien, ont augmenté. Les coûts également de l'hébergement ont augmenté. Et on nous demande de ne pas demander une somme trop importante aux familles. Même s'il y a des aides qui sont proposées par les mairies, par l'association des parents d'élèves, par le foyer socio-éducatif, on ne veut pas exclure les élèves des sorties, donc on essaye toujours de trouver des sorties qui soient payables par tous. Mais oui, vous verrez, vous serez concerné par des voyages et des sorties tout au long de votre scolarité au collège.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir. Petite pause musicale, ZZ Top, Gim, All Your Loving. Let's go.
Radio 93.7.
Pour finir l'émission, on vous propose le bêtisier.
Le quoi?
Le bébé, le tititi et le zidi.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier?
Vos élèves sont bons en français.
Vous trouverez...
Professeuse de français.
Quelles sont les sensations, les punitions?
Les sanctions.
Quelles sont les sanctions, les punitions que les professeurs donnent aux élèves?
Un élève peut-il être renvoyé du collège?
Hein?
D'autres élèves qui viendront à l'interview?
Hein?
Interviewer le lundi.
Interviewer.
Interviewer.
Pardon. Mais là, en fait, c'est un peu... Voilà, qui coûte cher.
Au collège de la Rame.
Si la perturbation par ordre alphabétique.
L'émission Les Stars de la Radio est terminée.
C'était Margot, Adem, Damon, Emeric, Leïna et Capucine de la classe des CM1 de l'école des Remparts de Verberie.
Ils ont interviewé le lundi 12 février Madame Arnaldi, professeure de français et professeure principale d'une classe de 6e qui exerce au collège d'Aramon de Verberie.
Dans la prochaine émission, on écoutera Nolan, Louise, Ethan, Yumi, Noé et Nina qui ont interviewé des élèves de la classe des 6e A.
On a hâte de les entendre.
Merci à Radio Valois-Mulsien de nous diffuser.
Bonne fin de journée.
Au revoir.